CFM Lacaune, le mag.
Alors aujourd'hui, je me trouve pas très loin du Berlou, sur la commune de Berlatz, avec Colline Beaupuis-Mouret, qui est donc chargée de mission au syndicat mixte du bassin versant de la Goutte. Bonjour Colline, et merci de m'avoir pris avec vous sur le terrain.
Bonjour.
Je suis contente d'être venue avec vous, puisqu'en fait, il faut l'expliquer, en ce moment, et jusqu'on va dire en novembre, décembre, il va y avoir des études sur le terrain, notamment sur le Vio et la Vèbre, pour déterminer où sont les zones humides et tout un travail de recherche. Alors là, on est sur le Berlou. En effet, on n'est pas ni au Vio ni à la Vèbre parce que vous faisiez une étude sur le bassin versant du Gijou, puisque le Berlou se jette dans le Gijou. Ça, c'est juste pour placer le contexte. Pour finir de placer le contexte, qu'est-ce que c'est que le syndicat mixte du bassin versant de la Goutte ? Est-ce qu'en quelques mots, on peut expliquer ses missions, peut-être ?
Alors, le syndicat mixte du bassin de la Goutte, c'est un établissement public qui va regrouper les départements, les communes, les communautés de communes et les agglomérations. Donc, par exemple, la communauté de communes des Monts de la Cône fait partie du syndicat mixte du bassin de la Goutte. Et on étudie tout ce qui est qualité et ressources en eau, donc sur un bassin hydrographique donc de la Goutte. Donc tous les ruisseaux qui alimentent la Goutte, on travaille dessus. Donc le Sor, le Gijou, Vio, Vèbre et le Dadou par exemple. Et on est un établissement public qui va travailler donc sur tout ce qui est écoulement de surface.
Et après, pour le grand public, peut-être, est-ce que aussi vous avez des missions envers le grand public ? Est-ce qu'on peut faire appel à vous, peut-être, pour certaines choses ?
Oui. On intervient avec le public parce que déjà, on a des missions de conseil pour tout ce qui est travaux en cours d'eau et en zone humide. Donc, il ne faut pas hésiter à venir vers nous si vous êtes un riverain, parce que les riverains... qui ont des cours d'eau peuvent avoir des droits et des devoirs. Donc, il ne faut pas hésiter à venir nous demander pour l'entretien de votre ripisylve, par exemple, pour avoir des enseignements.
La ripisylve, c'est tout ce qui est en fait la végétation autour des cours d'eau, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Donc, c'est quand vous avez des saules, de l'aulne, toute la frange arbustive le long de votre cours d'eau, ça peut être une ripisylve. Et il faut l'entretenir. C'est votre devoir en tant que riverain et propriétaire le long d'un cours d'eau. Donc, si vous avez des questions et que vous avez peur de faire quelque chose qui peut être préjudiciable, il ne faut pas hésiter à venir nous voir parce que nous, justement, on a ce rôle de conseil.
Donc, voilà. Donc ça, c'était pour le grand public. Maintenant, on revient un petit peu à notre situation actuelle, puisque voilà, on se trouve sur le terrain, je le disais, sur la commune de Berlatz, puisqu'en ce moment, vous faites vraiment une étude des zones humides sur tous les affluents en fait, de la Goutte, hein, voilà, et plus particulièrement le Vio, la Vèbre et le Gijou actuellement. Du coup, pourquoi cet inventaire déjà ? Dans quel but ?
Alors, on fait cet inventaire donc depuis 2020 avec le parc naturel du Haut-Languedoc. C'est un partenariat vu qu'on est sur le territoire du parc également. En fait, c'est un inventaire qui prend en compte tout ce qui est source de la Goutte, donc toute la partie montagneuse de la Goutte. Donc, c'est le Sidom, les Monts de la Cône. Et on va essayer de délimiter les zones humides parce que c'est des zones de stockage d'eau douce et qui sont très importantes pour le stockage lors des fortes pluies, mais également de la réalimentation des cours d'eau lors des épisodes de sécheresse. Donc, pour avoir un peu une idée de notre ressource en eau sur le bassin versant de la Goutte et donc tout ce qui va alimenter la Goutte, le Gijou, le Vio, la Vèbre, on a besoin d'avoir une connaissance sur ces zones humides. Donc, on va voir leur état, si c'est des prairies humides ou si c'est des sagnes, donc les sagnes, c'est les tourbières, où elles sont sur le bassin versant de la Goutte. Est-ce que elles vont avoir un rôle pour protéger des inondations les villages ? Parce qu'évidemment, vu que ça va stocker l'eau lors des fortes pluies, il peut y avoir un intérêt très intéressant pour éviter que d'un coup il y ait une inondation dans un village. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir ces informations-là.
Et alors actuellement, en fait, ces informations n'existent pas ou il y en a très peu. Du coup, comment ça se passe ? Alors, on va déjà, est-ce qu'il y a beaucoup d'informations sur les zones humides sur ce territoire-là ?
Sur le bassin versant de la Goutte, il n'y a pas beaucoup d'informations, notamment sur le Gijou. En fait, il n'y avait aucune carte des zones humides. Enfin, on en connaissait vraiment quelques-unes par-ci, par-là. Mais là, c'est un terrain très précis pour avoir une bonne idée des zones humides sur le bassin versant du Gijou, plus précisément. Après tout ce qui est Vieux-Vèbre, Agoutamont, donc vers la Salvetat, vers la Côte, Murat-sur-Vèbre, là on a un peu plus de connaissances, mais on a besoin de mettre à jour ces connaissances parce qu'on a des données qui datent de 2011 et il y en a qui ont été peut-être modifiées, peut-être qu'il y a des zones humides qui ont évolué en friche ou qui ont été repris par des agriculteurs. Donc on a besoin de retourner sur le terrain pour mettre à jour ces connaissances-là et comme ça travailler sur la ressource en eau avec des données concrètes et actualisées.
Alors là, on est sur le bassin versant du Gijou. Vous le disiez, là, aucune information. Vous m'avez bien expliqué avant l'interview pour que j'essaye aussi de vous guider dans cette interview. Donc à la base, tout se passe d'abord dans les bureaux. On peut dire ça comme ça, c'est vraiment une étude de cartes, de photos, d'images satellites.
Oui, c'est ça. En fait, d'abord, donc, pour le Gijou, enfin même sur tout le bassin versant de la Goutte amont, en 2014, il y a eu une étude de pré-inventaire, on appelle ça. Donc on a étudié les cartes géologiques, c'est un bureau d'études qui a fait ça, le bureau d'études Scopsan, qui a étudié les cartes géologiques, les photographies aériennes, des photos anciennes aussi, donc des cartes de l'état-major, des choses comme ça, des vieilles cartes de Napoléon, parce qu'il peut y avoir plein d'informations sur ces cartes-là. Pour savoir à peu près où sont les zones humides, ils les ont délimitées en gros. Donc par exemple, le long du Gijou vers Vienne-la-Case, il fallait que j'aille voir s'il y avait des zones humides. Et après, j'ai repris cette carte donc, de zones humides potentielles pour le vérifier sur le terrain. Donc depuis 2020, donc depuis l'année dernière, on vérifie ces cartes sur le terrain donc, pour voir si c'est bien des zones humides.
Et alors, comment on fait justement pour voir si c'est une zone humide, en gros, la zone que vous avez déterminée sur la carte, c'est la bonne zone, si c'est un peu plus, je dis n'importe quoi, 500 mètres à droite, 300 mètres à gauche, vraiment pour déterminer quels sont les indices.
Alors, on a deux indices principaux. On va utiliser la végétation. Donc, par exemple, s'il y a des saules, s'il y a des joncs, s'il y a de la menthe, ou même toutes les plantes hygrophiles qui aiment l'humidité. Et si elles n'y sont pas, si c'est fauché, on n'a pas forcément la végétation pour nous aider, on va utiliser la pédologie. Donc, ça, c'est l'étude du sol. Nous, on va pas aller très loin. Moi, j'ai juste une tarière manuelle, on appelle ça une tarière pédologique, qui va à 1 mètre de profondeur maximum et qui permet donc de voir vraiment en surface quel type de sol j'ai et s'il y a une nappe affleurante dans les premiers mètres du sol, quoi.
Merci pour ces explications. On se retrouve juste après une pause musicale pour continuer à essayer de comprendre comment vous déterminez où c'est qu'il y a les zones humides et on va voir aussi à quoi servent toutes ces études.
CFM Lacaune, le mag.
Merci d'écouter le mag sur les ondes de CFM Lacaune. Je suis toujours avec Colline Beaupuis-Mouret du syndicat mixte du bassin versant de la Goutte. En ce moment, Colline fait un inventaire des zones humides sur tous les affluents de la Goutte, notamment le Vieux et la Vèbre. Et je les rejoins pour étudier le Berlou sur la commune de Berlat, donc toutes les zones humides autour du Berlou. Alors, on a vu qu'il y avait des critères à observer pour pouvoir déterminer s'il y avait une zone humide. Mais c'est aussi vraiment une observation de la topographie, de tout ce qui se passe autour. Vous avez vraiment un petit peu l'œil partout, Colline.
Oui, voilà, c'est ça. Il faut vraiment regarder tout le terrain autour parce que vu que l'inventaire fait en 2014, il n'est pas très précis. Enfin, il nous donne juste une zone à aller voir. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a peut-être des zones humides qui sont 500 mètres plus loin et je ne vais pas les mettre de côté juste parce qu'elles ne sont pas délimitées sur ma carte. Et donc, il faut vraiment que j'observe tout l'environnement autour parce que ça va aussi me donner des informations sur l'alimentation de ma zone humide. Est-ce que c'est de l'eau de ruissellement qui vient de la crête juste au-dessus ou est-ce que c'est plutôt le ruisseau qui alimente ma zone humide? Est-ce que c'est plutôt une nappe? Donc tout ça, il faut vraiment que j'observe ce qu'il y a autour pour savoir d'où vient l'eau et s'il y a d'autres zones humides à aller voir.
Parce que vous parliez aussi de la végétation, mais vous m'avez bien expliqué que s'il y avait des reines des prés, mais qu'il n'y en avait pas beaucoup, s'il y avait une petite touffe de gens, c'était pas significatif.
Oui, voilà, c'est ça. Il faut vraiment qu'il y ait un recouvrement important de la végétation. Et c'est vrai qu'il y a des fois des zones où c'est un peu plus humide, donc il y a des joncs qui vont pousser. Mais il faut quand même qu'il y ait le sol plus la végétation qui soit vraiment caractéristique d'une zone humide, parce qu'une zone humide, c'est c'est un endroit assez important où il y a de l'eau une grande partie de l'année. Donc si juste il y a un endroit, on ne sait pas pourquoi, sur un mètre carré, j'ai énormément... j'ai une touffe de joncs toute seule, je ne vais pas la mettre en zone humide, mais même si sur deux mètres carrés, j'ai énormément de joncs avec un sol très humide, là par contre, je vais le mettre parce que c'est sur cette zone, c'est très représentatif, parce que des fois, j'ai des sources qui sont toutes petites, qui font 3-4 mètres carrés, bah, je vais quand même les mettre. Mais si j'ai trois joncs qui se battent en duel tout seul, trois pieds comme ça, je vais pas le noter. Ouais.
Il y a une autre question qu'il faut absolument que je vous pose, c'est comment ça se passe avec les propriétaires des terres, des terrains? Comment vous les promenez en amont? Est-ce qu'ils peuvent vous interdire de venir faire votre étude sur leur terrain? Je suppose que oui. Alors comment ça se passe?
Alors c'est vrai que ça c'est très important parce que vu qu'on est chez des gens, le plus souvent on est chez des particuliers, on n'est pas sur des terrains communaux, donc on doit prévenir les propriétaires, mais vu que c'est un gros travail en amont et que je suis toute seule à faire l'inventaire, je préviens pas au cas par cas, donc j'essaie de faire une communication globale, donc en contactant les mairies, évidemment les mairies sont au courant, les communautés de communes également, les gardes champêtres. La chambre d'agriculture qui, elle, va faire en sorte de contacter les agriculteurs, parce que moi, je n'ai pas le listing des agriculteurs, j'ai pas le droit d'avoir ces informations-là. Mais par contre, la chambre d'agri, elle, les contacte. Et après, on va utiliser les médias, donc que ça soit la presse, comme le Tarn Libre, le Paysan Tarné, la Dépêche, et également les radios, donc comme Radio Lacaune, pour contacter les particuliers, tout le monde en fait, tous les riverains, que tout le monde soit au courant et qu'il y ait un peu peut-être le bouche à oreille qui fait que tout le monde est au courant. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous avez des zones humides sur vos terrains et que vous pensez qu'on va venir les voir, si vous êtes contre ou si vous voulez juste avoir des informations. Parce qu'en fait, vu que ce n'est pas un réglementaire ce qu'on fait, vous n'avez aucune obligation après de restaurer votre zone humide. Enfin, nous, ce qu'on vient faire, c'est juste de voir où se stocke l'eau, où évolue l'eau en fait sur le bassin versant. On ne va pas travailler à la parcelle, on va vraiment travailler à l'échelle globale du bijou et après de la goutte. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter pour justement nous demander des informations, parce qu'après nous, on ne va pas forcément venir vous voir au cas par cas. On envoie un petit peu à certains propriétaires comme on peut avec le cadastre, notre communiqué de presse. Donc là, il y en a qui nous répondent, mais s'ils ne nous répondent pas, après on va sur le terrain et on fait les inventaires, quoi. Voilà.
Après, ce qui est important de rappeler, c'est que ces études permettent de vraiment connaître comment fonctionne l'eau et comment l'eau va de ruisseau en rivière jusqu'au plus grand fleuve. Et c'est vraiment ça que vous essayez de déterminer, hein, c'est bien ça?
Oui, oui, c'est vrai que le Gijou, enfin tout ce qui est la partie montagneuse de la goutte, donc on appelle ça la goutte amont, c'est une zone où il y a beaucoup de zones humides, où il y a beaucoup de stockage d'eau avec des rivières encore très préservées. Et c'est vrai qu'on a vu qu'on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. On n'arrive pas trop à pouvoir anticiper les sécheresses ou les inondations, à faire du conseil par rapport à la ressource et à la qualité de l'eau. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on fait. Nous, on essaye de faire en sorte qu'il y ait de l'eau pour tout le monde, de l'amont à l'aval, et qu'elle soit de bonne qualité, de bonne quantité. Donc, si on n'a pas ces informations-là sur les zones humides, eh ben, on ne peut pas projeter en fait ce qui va se passer, notamment avec le changement climatique. Donc il faut avoir ces informations-là. Parce que, par exemple, une tourbière, donc les sagnes, ce qu'on appelle les sagnes, c'est des zones qui vont stocker énormément d'eau lors des fortes pluies. Et après, en été, elles vont pouvoir réalimenter les cours d'eau grâce à cette eau. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un rôle d'éponge qui est très très important. Mais si on n'a pas ces informations-là, et ben, lors des grosses inondations dans les villages, on ne va pas pouvoir forcément pouvoir trouver des solutions fondées sur la nature, on appelle ça, pour éviter qu'il y ait des inondations. Donc d'avoir toute une carte avec les zones humides, on va pouvoir agir sur ces zones humides, peut-être pour les restaurer et qu'elles soient encore plus efficaces pour réguler les inondations, par exemple.
Donc là, il y a aussi un travail qui est fait sur le vieux et la vèbre. Et là, donc, un travail en amont avait déjà été fait. Donc vous allez aller vérifier sur le terrain s'il y a des zones humides qui se sont créées, d'autres qui ont disparu et leur évolution, c'est ça?
Déjà, ben, y a des zones humides qui ont peut-être disparu, ça c'est possible. Ben, peut-être qu'il y a eu un chantier qui a fait que y a moins d'eau qui arrive à une zone humide, donc petit à petit elle s'est asséchée. Peut-être qu'il y a eu des drains ou des choses comme ça, ou même ben, comme, enfin voilà, peut-être que voilà, c'est, le cours d'eau est parti un peu plus loin et du coup il n'alimente plus la zone humide. Après, c'est possible aussi qu'il y en ait qui se créent. Alors c'est sur des temps très longs, mais par exemple s'il y a une mare qui n'est plus curée, petit à petit elle va se combler, ça devenir une zone humide. Un lac, bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de gros lacs là-haut, mais une mare, des choses comme ça, ou même des terrains qui ont été boisés et qui ont été après déboisés. Le fait que ça soit par exemple dans une petite cuvette mais qu'il n'y ait plus les arbres pour pomper l'eau, ça peut devenir après une zone humide parce que du coup l'eau va stagner là, le sol va être riche en matière organique et ça peut devenir une zone un peu marécageuse qui va devenir humide du coup. Voilà, et donc ça va devenir une zone humide.
On peut quand même se demander pourquoi vraiment sur notre zone, on va dire, de montagne, il n'y a jamais eu d'études. Enfin, ça paraît assez fou, surtout ben, qu'on est entouré d'eau. Ça fait partie des éléments un petit peu qui nous entourent tous les jours.
Oui, oui. Ben, c'est vrai, alors déjà sur le Gijou, c'est vrai qu'on sait qu'il y a plein de zones humides, mais il n'y avait pas encore eu ce travail de fait parce que ben, là, du coup, au syndicat, on travaille beaucoup avec des subventions de l'Agence de l'eau, des choses comme ça. Et avant, les zones humides, elles étaient un peu mises de côté. C'est quand même un intérêt qui est assez récent. Avant, on travaillait beaucoup que sur la rivière, en fait. On n'étudiait pas du tout les eaux qui arrivaient des versants. Et on étudiait vraiment que la ripisylve et la rivière. Et donc maintenant, vu qu'on commence un peu à travailler sur ce qu'il y a autour, là, on s'intéresse aux zones humides. Donc c'est pour ça que ça arrive maintenant, en fait.
Une zone humide n'est pas forcément près d'un cours d'eau. Elle peut être, en fait, au milieu de nulle part, entre guillemets, quoi.
Oui, oui, mais oui, ça peut être lié à des zones de source. Bah, par exemple, au niveau de Picotalène, du col de Picotalène à côté de la Cône, il y a des magnifiques zones humides qui sont des scènes, donc il y a des tourbières. Et là, c'est, en fait, c'est des zones de source après qui vont arriver jusqu'au Gijou, mais elles ne sont pas du tout liées à un cours d'eau directement. C'est vraiment juste l'eau de pluie qui va alimenter ces zones humides et rien d'autre. Voilà.
Et ma dernière question, est-ce qu'il y a vraiment une zone humide assez remarquable qu'on peut aller voir sans détériorer, sans rentrer aussi dans une propriété privée peut-être, vraiment un endroit qui serait emblématique des zones humides de notre montagne?
Oui, ah bah, j'imagine que les Tarnais connaissent bien ce site, mais le site des Conneroutes ou de Marniès, qui est très connu, et c'est une magnifique tourbière, donc vous pouvez aller la visiter. En plus, il y a une petite rando qui fait le tour de la zone humide, donc il ne faut pas hésiter à aller voir. Il y a des Highland Cattle, donc elles n'y sont pas toutes...
C'est des vaches.
Voilà, c'est des vaches. C'est des vaches qui sont là pour justement gérer la zone humide, et elles permettent que cette zone humide reste ouverte, et donc elles broutent petit à petit. Et en fait, c'est des vaches qui n'ont pas de maladies de pied quand elles sont tout le temps dans l'humidité. C'est des vaches très rustiques qui sont plutôt de l'Écosse et elles sont très adaptées aux zones humides. Donc c'est pour ça que il y a des Highland Cattle qui ont été mis dessus. Donc il ne faut pas hésiter à aller les voir.
Merci Colline Beaupuis-Mouret du syndicat mixte du bassin versant de la Goutte d'avoir été avec nous aujourd'hui et surtout de m'avoir prise sur le terrain, de m'avoir montré un petit peu votre travail. J'espère qu'un bon accueil vous sera réservé partout où vous passerez puisque vous allez étudier les zones humides, continuer sur les versants de la Goutte, donc la Vèbre, le Viau, le Berlou, le Gijou. On pourra vous retrouver au bord de ces cours d'eau et puis bien sûr on suivra votre inventaire d'ici quelques mois. Merci beaucoup Colline.
Merci.